Bonjour à toutes et à tous, curieux et curieux, penseurs vagabonds, esprits sauvages, poètes nomades et riches de l'essentiel, bonjour et bienvenue dans l'onde curieuse. Aujourd'hui, on va à la source, celle qui glougloute, qui gargouille, qui donne naissance à une langue, à une poésie, à une pensée, à une vie même. On chemine direction le Gourgounel, un mas entre Beaumont et Valgorge, là où un jour de 1961, le grand poète nomade Kenneth White a posé son corps-esprit pendant quelques années, entouré par le silence, les arbres, le vent, le soleil, son épouse Marie-Claude et quelques autres compagnons, Thoreau, Whitman, Rimbaud, Nietzsche, là où sont nés beaucoup de thèmes qui polliniseront son œuvre. Le pensoète Kenneth White a quitté le chemin en août 2023 pour un autre lieu où habiter, peut-être dans les profondeurs de cette terre qu'il a tant aimée et pour laquelle il a conceptualisé certaines notions comme la géopoétique, une sorte de boussole totale pour notre monde. Il est parti, il est mort et pourtant il est toujours vivant, vibrant en beaucoup d'entre nous. Et d'autant plus à Joyeuse, depuis ce week-end et jusqu'au 27-28 avril, où une exposition, Monde ouvert, se tient en son hommage dans le château de Joyeuse, donc, organisée par l'association Le Gourgounel et l'Institut international de géopoétique. Et pour en parler avec nous, Benoît Delplanque, membre fondateur, avec le photographe Helmut Krakenberger de l'association Le Gourgounel, sera là donc pour évoquer Kenneth White. Bonjour Benoît.
Bonjour à tous.
Avec nous aussi dans ce studio, Manon. Salut Manon.
Bonjour.
Sylvain, à la technique, à la réalisation.
Salut.
Salut Sylvain. Et puis, nous sommes mardi, un indice. Marie est là aussi dans ce studio pour nous parler de ce qu'il y a à faire dans le coin ces jours-ci. Salut Marie.
Salut Sophie.
Alors, pour l'agenda.
Au navire, au cinéma, le navire, au Benat. Demain, le jour où j'ai rencontré ma mère, enfin il y a plein de choses au cinéma, le navire,
mais oui.
Tu sais toi, juste il y a une séance spéciale demain offerte par la le service culturel de la ville à tous les lycéens, donc demain mercredi, c'est donc le film Le jour où j'ai rencontré ma mère, lu 11 ans, rêve de sa mère dans le lit de son foyer d'accueil, celle-ci, dit-elle, est une célèbre cascadeuse hollywoodienne, mais lorsqu'elle vient enfin lui rendre visite, Luce se retrouve malgré elle embarquée dans un road trip endiablé direction la Pologne. Elle se rend vite compte que Karina, sa mère, c'est tout ou rien. La réalité va rapidement les rattraper et obliger à décider de ce qu'elles sont prêtes à faire pour rester ensemble. C'est juste pour donner envie.
C'est juste pour donner envie.
Voilà.
Mais c'est un très très chouette film, ouais. Je pense, dont Cathy nous avait parlé avec émotion et qui a été choisi aussi par des jeunes.
Donc c'est voir. Demain offert aux lycéens, juste je sais pas l'heure.
Mais ça, mercredi, mais c'est pas grave, vous trouverez ça sur le site du navire.
Voilà, toujours cinéma, c'est un programme de court-métrage en après-midi, cinéma et oiseau, cinéma Le Regain du Teil. C'est jeudi.
Mmh. Ah non, c'est jeudi, d'accord.
Qu'est-ce que j'ai dit demain ? Non, jeudi. Jeudi, 14h30, ciné-goûter, avec le film d'animation Migration. Et à 17h30, projection de À vol d'oiseau, ces trois courts-métrages d'animation. Le tout petit voyage de Emily Worms, L'air de rien de Gabriel Hénaud Lefebvre et Drôle d'oiseau de Charlie Bellin. La séance est enrichie, accompagnée par Claude Joiris, qui est naturaliste et photographe animalier.
Oh, très bien, mais ça doit résonner aux oreilles de notre invité.
Ça, c'est parce que je passe à autre chose, donc il fallait une petite musique. conférence archéologie, quoi de vieux en Ardèche, par l'archéologue Audrey Saison-Guichon, organisée par l'école Chic. C'est à l'accueil de Ribes.
Ah, c'est enfin, à la...
À l'accueil. À l'accueil, mm-hmm. Donc c'est à Ribes, 548 route de l'église, vendredi à 19h30. Entrée libre et conférence et moment convivial pour finir.
Oh, merci.
C'est encore autre chose. Le groupe 007 Airlines est en résidence au Rocacqua, au Benat. Et donc, pour préparer la tournée du nouvel album, la résidence se terminera par un concert vendredi 19 avril à 21h.
Rocacois, donc c'est voilà. En bas, c'est près du
lycée
Roca à Aubenas.
En fait, j'ai mis dans le désordre. C'est pas grave, il y avait une autre conférence.
J'ai l'impression que nous butinons, nous allons de ci, de là.
C'est ouais. Ça, attends, on n'a pas fini.
Donc ça, c'est vendredi.
C'est toujours vendredi, mais là, c'est 21h.
Essayons de ne pas perdre trop les auditrices et les auditeurs.
C'était que j'avais une autre conférence. Mmh. Et donc, Baume-Droby, c'est à Joyeuse. C'est les minéraux, une ressource indispensable à notre société, par Didier Nectou, géologue, dans le cadre des conférences Baume-Droby, Nature et l'Homme.
D'accord.
Donc ça, c'est à 20h30.
Mais vendredi.
Vendredi toujours. Mmh. À Joyeuse. Espace Gerbeau, 8 rampes, Cluchet. C'est la salle qui s'appelait avant le Cascabar.
D'accord.
Tout bon ?
Ben oui.
Et dernière info, un bout de musique. Ouais, c'est foutraque, mais c'est mardi. Des mini-stages de bourrée trois temps à Jaujac, musique et danse, c'est proposé par l'association Traderidera.
Ah mais il me semblait c'est... bien, tu n'en as pas parlé.
Bah j'arrive.
On redit, c'est l'essentiel, Traderidera.
Au château de Castrevieille, et donc c'est organisé différemment, ça devait être samedi, dimanche. Finalement c'est dimanche matin, c'est le stage de danse animé par Cyril Etienne et le stage de musique par Jérôme Liogier. Donc, bourré trois temps, Sophie.
C'est tout à fait ça.
Oui. C'est tout à fait ça. Et voilà, donc de 9h30 à 12h30, les deux stages. Et à 2h, à 14h, le bal, le bœuf d'abord et le bal.
D'accord.
Parce qu'on apprend et ensuite on met en pratique.
Les conditions, c'est gratuit, c'est
non,
payant.
C'est payant et il faut aller voir sur le site eloasso.com pour les inscriptions.
Et
reste de la place.
Et donc, c'est par rapport à... On tape Eloasso, mais Eloasso, lequel des
Eloasso ? Traderidera.
Traderidera.
Voilà, l'organisateur et stage bourré trois temps.
Bourré trois temps, ça c'est dimanche.
Voilà, j'ai fini.
Merci beaucoup. Alors, il n'y a pas de jeu, mais je pense qu'on pourrait initier un nouveau jeu qui est... Envoyez-nous l'agenda, finalement. Qu'est-ce que vous avez compris ? Alors, on était à mardi. Non, pas
non.
Compris.
Non,
mais
j'ai
pas
fait
compris.
Dans l'ordre. J'ai fait...
Ah,
juste,
tu l'as fait dans l'ordre.
Il y a la conférence qui s'est...
Ah, mais qui était
il y avait
une demi-heure avant. D'accord.
Et ouais.
Vendredi,
et en fait, ma ligne n'était pas au bon endroit. Je voulais faire deux conférences et ensuite le concert. Mmh. Et donc, j'ai fait le petit jingle... décalé avant la deuxième conférence.
Nous
c'est tout, mais on n'était que vendredi.
Mais on n'était voilà. Que vendredi.
Et puis après, dimanche.
Merci beaucoup, Marie. Merci pour ce précieux agenda. Eh bien, on continue. Alors, je ne sais pas si c'est une bourrée à trois temps. Non, c'est beaucoup. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'influence, en tout cas. C'est en musique. Fakir, Voyager, issu de l'album Talisman en 2023. Fakir, c'est Théo Levigoureux qui a choisi là, dans cet album d'être un petit peu plus militant. Il nous fait voyager, mais aussi il nous fait voyager sur la Terre et avec cette question écologique qui le taraude un peu plus. Et c'est parfait pour inaugurer ce voyage que nous allons entreprendre pendant à peu près 20 minutes avec Benoît Delplanque, ce voyage sur les traces de Kenneth White à l'occasion de l'exposition qui lui est consacrée, donc à Kenneth White, jusqu'au 28 avril au château de Joyeuse, une exposition hommage. Alors on est là aussi avec Manon, donc toute cette semaine à Fréquence 7. Et puis, ce que je vous propose, c'est vraiment de marcher sur ses pas, grâce notamment à ses mots et à d'autres mots. Mais d'abord, on va ouvrir cette session magazine par une citation, Manon.
Même plus qu'une citation, c'est un terme qui semble vraiment être le fil rouge de l'œuvre de Kenneth White, qui est le terme de nomadisme. On le retrouve dès l'ouverture de La Route Bleue, donc qui est un ouvrage publié en 1983 qui lui vaut le prix Médicis. Et donc cet ouvrage s'ouvre avec une citation de la poétesse Annie Lebrun, qui nous dit « Nous avons tellement d'espace et si peu de temps, nous nous ferons nomades ». Qu'est-ce que cette citation vous évoque, Benoît Delplanque ?
Il y a le rapport entre l'espace et le rapport à l'histoire. Et c'est vrai que Kenneth White, lui, a insisté sur l'espace. Il a toujours pensé qu'on était un peu trop enfermé dans l'histoire. Justement, l'un de ses derniers essais s'appelle « Au large de l'histoire ». Initialement, ça devait être à la recherche de l'espace perdu. Donc, c'est vrai qu'il a un contact plus avec la géographie qu'avec l'histoire, mais il n'a pas écarté l'histoire des idées et il est passé de culture en culture. Voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais effectivement, il faut s'en donner et essayer de sortir de l'histoire, justement, pour retrouver un contact plus étroit avec l'espace.
Alors justement, on va essayer de s'ancrer un petit peu. Justement, il y a, on va voir presque, allez, employons les grands mots, Olivier n'est pas là, mais la dialectique entre nomadisme et ancrage, on va y revenir, mais d'abord, on est ici en Ardèche, on est au Gourgounel. Pourquoi le Gourgounel ?
Alors, il y avait des raisons sociologiques et puis d'économie personnelle pour Kenneth White. Après avoir habité dans des grandes villes, Glasgow, Paris, Munich, il a su que pour deux fois rien, on pouvait, dans les années 60, acheter une maison en Ardèche, parce que l'Ardèche était en voie de dépeuplement. Donc il en a profité parce qu'il n'avait pas beaucoup de moyens. Il y a Mallarmé qui habitait en Ardèche et qui disait « L'Ardèche, pour moi, c'est l'art et la dèche ». Et lui, c'était un peu ça au départ.
Donc il s'est installé là. Et je le disais en introduction, le Gourgounel, c'est un peu le gargouille, la source.
C'est là où les eaux gargouillent, effectivement. Il y a un lien très, très étroit entre l'étymologie et le lieu. Quoi.
Alors il s'est installé là, mais... au Gourgounel va naître ce qui apparaîtra et ce qui sera conceptualisé bien plus tard, à la fin des années 80, 89, je pense, le terme même de géopoétique, on va y revenir, mais tout naît là, dans cet ancrage. Alors, on vient de parler de nomadisme. Il est nomade, il va partout, donc vous avez cité ces grandes villes, mais il ira aussi en Asie, il va aller bien ailleurs. Il est toujours dans cette idée d'itinérance. Quel est le lien qu'il y a pour lui entre le voyage, l'itinérance, le nomadisme, et puis habiter, être de quelque part ? Est-ce qu'il est de nulle part ou est-ce qu'il est de quelque part ?
Oui, alors il est venu en Ardèche justement parce qu'il voulait un lieu premier auquel confronter la somme de savoir qu'il avait accumulé dans toutes ses études. Il voulait confronter ça à un sol fondamental et voir ce qu'il en résultait. C'était pas donné d'avance. Et il a eu c'est un livre vraiment de sensations. Et il s'est aperçu que la pensée était la plus chargée d'énergie, justement, dans la sensation. Donc tout part de là, quoi. Vraiment un rapport sensoriel au monde et aux éléments de la Terre. Et ce n'est qu'après qu'il a, par tout un parcours, que justement on pourrait dénommer le nomadisme intellectuel. Alors voilà, c'est pour ça qu'il faut préciser. Il dit toujours nomadisme intellectuel, c'est pas nomadisme à l'errance gratuite ou le pastoralisme, comme on l'a entendu. C'est un nomadisme qui va de territoire en territoire, d'époque en époque, de culture en culture, parce que, d'après lui, chaque culture est partielle en soi. Et pour avoir une culture complète, un paysage complet, il faut justement passer d'une culture à l'autre. Donc il en a passé par 25 à peu près. Et pour essayer de dégager un espace, voilà, beaucoup plus respirant, au-delà des frontières, etc. Et ça l'a mené à la géopoétique, on y reviendra. Mais effectivement, chez lui, il y a ce paradoxe qu'on retrouve dans toute sa vie, mais dans tous ses choix, de la sédentarité et du nomadisme. Hein. Ce sont deux positions qui ont dominé l'histoire de l'humanité. Hein. Et en général, la sédentarité mène à la politique, à la géopolitique. Voilà, il y a une sorte d'enfermement dans le politique. Avec la géopolitique, on éviterait ce trop grand enfermement en gardant à l'esprit le mouvement sur la Terre, justement. Mais il a effectivement écrit des livres d'errance et des livres de résidence. En anglais, Staybook et Waybook. Gourgounel fait partie des Staybooks, effectivement, comme la maison des marais par rapport à sa maison en Bretagne a constitué aussi un Staybook. Et il a écrit des livres de voyage, effectivement, dans le Labrador, en Amérique, aux Antilles, etc. Mais chez lui, l'errance mène à la résidence. Le but, c'est d'habiter mieux sur la Terre en revenant, quoi. On revoit, finalement, on regarde dans son lieu où l'on est vraiment, quoi.
C'est-à-dire, c'est peut-être la différence entre l'errance et le voyage, c'est-à-dire errer en allant nulle part, voyager pour revenir, partir de et revenir à.
Effectivement. Il a été catégorisé souvent comme un écrivain voyageur, mais il se distingue de cette appellation parce que chez beaucoup d'écrivains voyageurs, on peut remarquer qu'il y a une fuite en avant. Souvent, c'est une fuite de là où ils sont, quoi. Il y a un désarroi. Et lui, justement, après un travail sur soi, sur lui-même, hein, et l'Orient était très important dans son parcours, il y a effectivement une conscience des lieux et un plaisir à habiter n'importe où. Et vous parliez soit de nulle part. Lui, il a plutôt l'intention d'être ubiquitiste. Voilà. C'est-à-dire, chaque lieu est lié à d'autres lieux. Chaque lieu est dans un lieu, dans un plus grand lieu. Voilà. Donc c'est un peu des cercles concentriques. Et chaque lieu qu'il a habité, il les lisait effectivement comme des cercles concentriques. Mais comme une forme de respiration, c'est comme ça qu'il comprenait la vie, une expansion, une concentration, voilà. Et c'est le mouvement vital, quoi.
Et relié. D'où cette notion que vous avez évoquée à l'instant de géopoétique. Est-ce que vous pouvez nous définir un peu ce qu'était pour lui précisément la géopoétique ?
Oui, ben, ce nomadisme dont je parlais, son voyage à travers les cultures pour dégager un espace, il a cherché quel était le motif central pour aujourd'hui, sur lequel une nouvelle culture pouvait s'appuyer. Parce que pour mettre tout le monde d'accord d'une certaine manière, et en cherchant bien, il a dit ben, c'est la Terre finalement sur laquelle nous essayons de vivre plus ou moins bien. Et il s'est aperçu que au centre de chaque culture, il y a une poétique forte, hein, dans une tribu paléolithique. Il y a le chant du chaman qui oriente la collectivité. Chez les Grecs, vous avez effectivement l'agora, mais vous avez aussi la poésie océanique d'Homère. Et dans la culture chinoise, il y a le vent, il y a le livre des Odes qui véhicule le vent des territoires. Voilà. Et en poétique, il faut bien rappeler aussi d'où ça vient, quoi. Et par exemple, chez les Grecs, pour parler de l'intelligence primordiale, on disait « nous poétikos », c'est-à-dire la première saisie des choses, avant que ça devienne de la philosophie, d'un système, etc. Et ça, ça renvoie à l'expérience de chacun, en fait. C'est ça qu'il y a chez Kenneth White, c'est qu'il ne s'agit pas d'admirer quelqu'un, c'est quelqu'un qui nous renvoie à notre propre expérience du rapport au monde, quoi. Voilà, et c'est ça qui est intéressant. Et on se rencontre à la base, quoi. C'est-à-dire, la base, c'est effectivement le rapport entre l'humain et la Terre.
Il cherchait quelle expérience commune pourrait tous nous relier aujourd'hui en tant que culture.
Voilà, parce que les enjeux sont planétaires aujourd'hui. On ne peut plus rester chacun dans son coin, malgré que... Aujourd'hui, on nous parle encore de repli identitaire, etc. Là aussi, il y a une lecture du monde d'aujourd'hui par rapport à la sédentarité et le nomadisme, on pourrait dire. Vous avez parfois des replis identitaires, on sait ce que c'est, ou alors une dilution dans la mondialisation, mais qui tourne à vide un peu.
C'est ça, de n'être nulle part, en effet. Voilà. D'être complètement déraciné, mais pas dans le sens être assigné à quelque part tout le temps, mais de ne plus être en lien avec... Un écosystème global.
Voilà, et donc je précise aussi que la géopoétique n'est ni une variété culturelle de plus, ni une école littéraire, ni de la poésie considérée comme un art intime, encore moins un sujet de pensée abstraite, éloigné des préoccupations les plus urgentes. On pourrait dire qu'on n'enferme pas l'énergie dans un système. C'est un mouvement qui concerne la manière même dont l'être humain fonde son expérience sur la Terre.
Ce sont vraiment là les mots de Kenneth White à la base de l'Institut international de géopoétique, c'est ce qu'il va fonder en 1989. Ce lien, alors on a parlé tout à l'heure de lien entre poétique et politique. Vous sembliez dire que ce n'était pas finalement ce qu'il voulait faire, ce n'était pas de la politique, ai-je mal compris? Mais est-ce qu'il n'y a pas une dimension aujourd'hui éminemment politique de toute cette manière de vivre, c'est-à-dire de reconsidérer tous les vivants, d'être en lien avec justement tous ces vivants? Est-ce que ce n'est pas un projet politique qui est presque le nôtre aujourd'hui, ou qui doit être le nôtre? Est-ce que le projet poétique de Kenneth White d'il y a presque 40 ans n'est pas aujourd'hui, n'est pas un projet dont politiquement on s'empare, même si malheureusement quelquefois c'est un peu creux. Mais est-ce qu'il n'y a pas une filiation? Est-ce qu'aujourd'hui on n'en vient pas là politiquement?
Oui, il appelait un de ses voeux, justement, quand on se penche sur ce que pourrait être une politique, enfin une géopolitique politique, si on peut dire. Mais chez lui, il y a toujours eu ce souci, la question primordiale chez lui, ça a toujours été le culturel, quoi. C'est le culturel qui donne une dynamique à une civilisation. Et donc, il y a des applications, effectivement, comme vous dites, des retombées, etc. Et
concrètement, des applications comme...
je veux dire, il y a des actions qui sont menées pour essayer de faire comprendre ce lien primordial qu'on doit avoir avec la planète, quoi.
Voilà. Et l'exposition peut-être se situe justement dans ce cadre-là et dans cette...
Oui, alors là, c'est de la communication. On essaye de... Moi, je suis arrivé en Ardèche pour essayer de
sensibiliser.
De sensibiliser, de le faire connaître mieux et effectivement de trouver peut-être un lieu où se rassembleraient sa pensée aussi. Parce qu'il y a des chercheurs, quelqu'un m'a parlé, alors je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, mais quelqu'un m'a parlé qu'elle avait une amie qui avait un master en géopolitique, je ne sais pas si ça existe, si elle s'est trompée, si elle s'est... Mais bon, voilà, il y a des choses, en tout cas, il y a des chercheurs autour de ça. C'est pour ça que l'hommage que nous lui rendons, il est dénué de nostalgie. Parce qu'effectivement, comme vous venez de le souligner, il y a des possibilités de s'emparer de cette pensée et de l'appliquer dans tous les domaines. Il y a un art géopoétique, par exemple, il y a une musique géopoétique. L'an passé, on a fait des premières rencontres géopoétiques en Bretagne, qui seront d'ailleurs alternativement organisées en Ardèche et en Bretagne. Donc ça, c'est, je peux faire l'annonce.
Ouais. Oui. On redit pourquoi la Bretagne ? Parce qu'il a vécu. Alors, il est mort.
Il a vécu à plusieurs lieux, dans les Pyrénées, en Ardèche et aussi en Bretagne. Sa maison va devenir maison d'écrivains et d'artistes. Elle est en passe de le devenir. Et en Ardèche, il y aurait, depuis 2019, nous travaillons à élaborer un projet autour d'une maison géopoétique, Kenneth White.
Il y a plusieurs lieux, d'ailleurs, on tisse le fil de l'itinérance. Hein, c'est un mouvement international, ou en tout cas un esprit international, et il y a plusieurs lieux de géopoétique à travers le monde.
En Roumanie, au Chili, même.
Oui, après la création donc de l'Institut dans les années 90, après une création de revues, après les rencontres géopolitiques qui ont été réalisées l'an dernier, l'Institut international de géopolitique, effectivement, est constitué de différents groupes, hein, comme un archipel, dans plusieurs pays. Actuellement, le Brésil est très demandeur. Il y a beaucoup de traductions en portugais de l'œuvre de Kenneth White. Il y a 3 centres géopolitiques au Brésil. Et en Ardèche, on essaye d'en faire un aussi, effectivement, autour de cette maison.
Alors, on parlait d'itinérance. Cette exposition, on va s'attacher un petit peu à dire un petit peu ce qu'on peut trouver dans cette exposition, mais cette exposition elle-même est une exposition itinérante.
Oui, elle a été créée par le Centre géopolitique écossais. Et elle a été traduite en français et elle est effectivement nomade. Mais elle se modifie selon les contextes aussi. Et puis l'œuvre qui a évolué depuis les années 90, se modifie régulièrement.
Donc cette exposition qui existe depuis longtemps et qui à chaque fois se modifie, évolue, etc., est là du 13... c'était le week-end dernier, jusqu'au 28 avril, au Château de Joyeuse. Qu'est-ce qu'on y trouve dans cette exposition ?
Alors, jusqu'au 28 avril, il y a un hasard du calendrier, mais c'est une coïncidence, puisque c'est la date de naissance de Kenneth White. On va trouver justement son itinéraire, hein, qu'il a rassemblé sous cette appellation « monde ouvert ». Ça indique bien le sens de l'ouverture. Le mois d'avril, d'ailleurs, est le mois de l'ouverture. Lui, il parlait de l'avrilée incertaine. L'avrilée, c'est un ancien mot du français qui voulait dire, effectivement, l'ouverture du mois d'avril. On va y trouver tout son itinéraire, depuis ses origines écossaises, sa vie étudiantine de Glasgow, de Paris, de Munich. On va trouver ses errances dans l'Europe. On va trouver ses voyages... en Asie et en Amérique.
Mais sous quelle forme ? Qu'est-ce que vous présentez ?
Il y a une dizaine de panneaux qui indiquent avec des photos à l'appui. Il y a des objets personnels, il y a des manuscrits, il y a des livres d'artistes. Voilà, il y a plein de documents. Et donc, petit à petit, on en vient à la géopolitique. Et puis, il y a un panneau rétro en début d'exposition sur des photos prises dans les années 60 en Ardèche. C'est pour ça que j'ai intitulé « De Gourgounel à la géopolitique le parcours ».
Et parce que cet art est... Enfin, l'art, on va dire, de manière générale, de Kenneth White est vivant, vous lui donnez de la voix... notamment à travers des lectures. Ça, ce sera un temps fort le dernier week-end, les 27 et 28 avril. Vous pouvez nous en dire un mot ?
Oui, sur les deux après-midi du 27 et du 28, nous organisons deux après-midi où il y aura à chaque fois une conférence, la diffusion d'un documentaire du nomadisme à la géopoétique et des lectures de son œuvre par un comédien, Frédéric Faure, qui sera avec nous.
Mmh. Voilà. Alors, Frédéric Faure n'est pas parmi nous aujourd'hui. Mais on vous a demandé si vous vouliez bien nous faire entendre quelques mots de Kenneth White, si vous voulez bien.
Car toujours revient la question, comment, dans la mouvance des choses, choisir les éléments fondamentaux, vraiment, qui feront du confus un monde qui dure, et comment ordonner signes et symboles pour qu'à tout instant surgissent des structures nouvelles, ouvrant sur de nouvelles harmonies, et garder ainsi la vie vivante, complexe et complice de ce qui est seulement la poésie. Né du moi confus, du corps troublé et de l'esprit dément, né des pages du savoir jetées au vent, né du vol de la mouette rieuse et des échos de son cri, né des images embrasées dans le sombre océan de la nuit, né de tant de contradictions, glace brûlante et feu gelé, le blanc, le vide, le nu, c'est cela que j'ai toujours recherché. Dans la montagne de Taïwan, ici, plus d'Orient ni d'Occident. Le héron blanc s'est fondu dans la brume.
Merci Benoît Delplanque pour rendre vivants ces quelques mots de Kenneth White. Donc on pourra entendre des lectures le 27 ou le 28 avril au château de Joyeuse, donc où est présentée l'exposition. Donc en continu, vous y êtes, vous?
Oui,
c'est ça.
Actuellement, je devrais y être, mais bon, vous m'avez invité.
Vous y êtes, donc les visiteurs pourront avoir aussi plein d'informations parce que c'est extrêmement riche. Vous êtes venu, bon, on essaie de se cadrer là, mais vous êtes venu avec plein de contenu, plein d'envie de partager qui est Kenneth White. Peut-être avant de se quitter, est-ce qu'il y a une facette fondamentale pour vous de Kenneth White dont on n'a pas parlé, que vous voudriez parler, nous parler, partager?
Oui, il y a chez lui une fraîcheur dans l'expression, une clarté de la pensée et une jouissance communicative. C'est ça qui est frappant. Tous ceux qui viendront voir le film pourront s'en apercevoir.
Le film qui est du nomadisme à la géopolitique, film d'Emmanuel Dallaglio et Jean-Paul Caveux, c'est ça qui sera diffusé samedi à 15h15 au Château de Joyeuse. Merci beaucoup. Merci Manon d'avoir été là. Merci Benoît Delplanque. Donc on rappelle cette exposition du 13 au 28 avril au Château de Joyeuse, une exposition monde ouvert sur Kenneth White en hommage donc au grand poète, j'allais dire écossais, mais nomade, entre autres écossais, et gourgounélien aussi. Merci beaucoup Sylvain pour la réalisation de cette émission. Restez à l'écoute de Fréquence 7 puisqu'à 13h il y aura Drôle de Dame, à 15h le Télex, vos messages, vos annonces, vos coups de cœur, à 17h la rediffusion de cette onde curieuse, à 18h c'est Polymix et la voix off. Aujourd'hui c'est un entretien avec l'historienne Annie Lacroix-Rise sur la crise finale du capitalisme qui avait été diffusée une première fois en 2020. Et oui, le capitalisme et par nature toujours en crise. Mais peut-être est-ce la dernière, on ne sait jamais, on croise les doigts. C'est à 18h avec Polymix et la voix off. Et à 21h, Metal Zone, un petit plaisir gourmand avec beaucoup de décibels. Nous, on se retrouve, mais je ne sais pas quand, mais sans doute très bientôt. Ciao !